I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Mathieu Bock-Côté. Cher Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Bonne année.
Et bonne année, cher ami.
Parce qu'on ne s'est pas croisé cette semaine. Tous mes voeux pour l'année 2024. Arthur de Vatrigan, bonne
bonsoir,
année.
Bonsoir
à la une de l'incorrect ce mois-ci. La France va-t-elle craquer avec une magnifique une et des personnages qui ont évidemment une grande réflexion sur l'état de notre pays. On commence l'émission dans un instant, mais avant cela, on souhaite également la bonne année à Augustin Donadieu, qu'on n'a pas vu cette semaine, et qui va nous rappeler les premiers principaux titres de l'information. Cher Augustin, bonsoir.
Bonsoir Elliot, bonne année à vous aussi. Le département du Pas-de-Calais reste placé en vigilance orange. 11 écoles, collèges et lycées resteront fermés lundi pour la rentrée des classes. Mais la décrue des fleuves de l'Aa, la Lisplaine et la Canche s'est déjà amorcée. Elle devrait s'accélérer avec la montée en puissance des pompes venues de plusieurs pays européens, ainsi que du temps sec prévu pour les prochains jours. Le bilan du séisme au Japon s'est alourdi ce samedi. 126 personnes ont perdu la vie lors du tremblement de terre de 7,5 sur l'échelle de Richter survenu le 11 janvier dernier. Les secours japonais continuent à fouiller inlassablement les décombres à la recherche d'éventuels miraculés. Deux femmes âgées ont été retrouvées vivantes jeudi après être restées bloquées 4 jours sous les décombres. Et la frayeur de ces passagers d'un Boeing d'Alaska Airlines. Regardez ces images, ils ont dû atterrir en urgence après l'envol spectaculaire de la porte de secours de leur avion juste après le décollage aux États-Unis. Les 177 passagers et membres d'équipage sont indemnes, mais la compagnie a décidé de clouer au sol ses 65 Boeing 737-9 pour procéder évidemment à des vérifications.
À la une de Face à Mathieu Bock-Côté, une réflexion de l'avocat Richard Malka interpelle. Il voit dans la religion le point commun de toutes les dernières attaques terroristes et revient sur la notion de laïcité à la française. Dans cette équation, Richard Malka omet-il l'inconnu majeur, qui est d'ailleurs connu de tous, que vous donnerez, Mathieu Bock-Côté, dans votre première édito. À la une également, Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, a le sens du timing. Le rapport sur l'immigration est publié avec 2 semaines de retard et il assume, pas question de montrer nos failles majeures en matière de lutte contre l'immigration illégale, en plein débat sur la question à l'Assemblée. Alors à quoi sert la Cour des comptes? À quoi joue Pierre Moscovici? On en parle dans cette émission. Enfin, Mathieu Bock-Côté, vous recevez ce soir le philosophe Pierre Manant, professeur de philosophie politique. Vous allez revenir sur le poids de Jacques Delors, des hommages hier aux Invalides et une mise en scène qui fait polémique autour du drapeau européen plus visible que le drapeau français. Voilà le programme. Face à Mathieu Bock-Côté, c'est parti. Et pour commencer, Mathieu Bock-Côté, vous voulez revenir sur le dernier numéro de Franc-Tireur où l'avocat Richard Malka, défenseur bien connu de la laïcité, affirme que la critique est un marqueur de la liberté. Fin de citation. Vous y voyez un lien avec une autre de ses déclarations d'il y a quelques semaines où il accusait la religion d'être la cause du terrorisme. Et c'est sur ces deux réflexions que vous voulez commencer cette nouvelle année de Face à Bock-Côté.
Oui, la critique de Dieu, si je me rappelle bien la citation dans Franc-Tireur. Alors, c'est assez intéressant parce que Malka est une figure admirable. Une figure admirable, c'est quelqu'un qui se bat pour la liberté d'expression, c'est quelqu'un qui ose dire des choses souvent qui peuvent l'amener à risquer sa peau. Faut pas l'oublier, on est devant quelqu'un qui ne se contente pas de défendre de manière abstraite la liberté d'expression, mais qui s'engage sur le terrain le plus dangereux qui soit, la critique souvent des islamistes. Et pourtant, dans les deux déclarations auxquelles je ferai écho, c'est comme s'il battait en retraite conceptuellement, et ça m'intéresse, pourquoi? Parce que ce point de vue, le sien, est très présent dans l'espace public et me semble inexact. Je m'explique. Il nous dit donc que la critique de Dieu est la marque distinctive de l'esprit de liberté. Peut-être faudrait-il être plus précis aujourd'hui. La critique de Dieu ou la critique d'un visage particulier de la divinité telle qu'on se la représente, c'est-à-dire la divinité telle qu'on se la représente en islam. Premier élément. La critique de Dieu en tant que telle, vous savez, dans les pays chrétiens, c'est pas très dangereux. La critique de Dieu, si vous la faites aux États-Unis, si vous la faites au Canada, en France en tant que telle, vous ne risquez pas grand-chose. Si vous critiquez Allah, vous risquez peut-être davantage. De même, il y a un segment qui est assez intéressant. Alors, en fin de l'année dernière, Malka était de passage sur la 5. Et il y a un passage qui a remonté à la surface ces derniers jours, qui est devenu viral sur Twitter. Et je cite ce passage parce qu'il est très intéressant. « Mettons les pieds dans le plat. Si on ne regarde pas les choses en face et si on ne dit pas que le point commun de toutes les attaques terroristes que l'on vit depuis des années, c'est la religion, alors on ne dit rien. » Soyons sérieux. Ce n'est pas la religion en tant que telle qui est le point commun de ces attaques. C'est, à certains égards, l'islam, mais surtout l'islamisme. Or, refusant de nommer en particulier pour nommer en général, eh bien, il nous conduit, je reviendrai peut-être, sur une fausse piste. Il y a trois hypothèses. La première, il aurait tout simplement peur de dire les choses parce qu'il craindrait pour sa vie, ce qui serait compréhensible, mais ce n'est pas le cas. Malka est un homme intelligent et courageux, plus courageux que plusieurs personnes qui se portent à la défense des libertés d'expression, donc ne remettons pas en question son courage. Est-ce qu'il craint plutôt, en disant la religion en général, plutôt que l'islam ou l'islamisme, la distinction est importante mais le lien doit être fait, est-ce que c'est parce qu'il a peur de faire le jeu de l'extrême droite en critiquant, selon la formule connue, en basculant dans une logique discriminatoire pour cibler une religion plutôt qu'une autre? Peut-être est-ce cela, il écrit dans Franc-Tireur, qui est la revue spécialisée de la mise à distance par rapport à la tenaille identitaire. Donc peut-être est-ce cela, mais encore une fois, je ne crois pas. Je pense que sincèrement, chez lui, il y a cette conviction ancrée dans un certain républicanisme français qu'il existe une telle chose que la religion en général et les subdivisions en particulier, le catholicisme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, faites la liste, qui chacune d'entre elles sont des nuances d'un grand tout finalement très négatif que serait la religion. Et c'est ce qu'il nous dit finalement. C'est la religion le problème, c'est pas l'islam. L'islam, pour l'instant, mais hier c'était, il le dit d'ailleurs dans cet entretien qui est remonté à la surface, hein, qui est viral, on nous dit hier c'était les chrétiens, au temps de l'Inquisition, qui étaient des chrétiens radicalisés, qui pratiquaient l'Inquisition, et des chrétiens qui voulaient vivre leur vie tranquillement à l'abri de la persécution religieuse ou des persécutions des autres. Est-ce qu'on peut vraiment comparer l'islam tel qu'il se déploie aujourd'hui au christianisme du temps de l'Inquisition? On pourrait en douter. Mais l'autre élément central à travers cela, c'est qu'on nous dit que le progrès de l'esprit humain dans nos sociétés passe par l'éradication complète de la religion. Il ne devrait en rester qu'un résidu de spiritualité pour les uns pour les autres. Chacun pourrait se construire sa religion intérieure spirituelle, mais l'idée d'une religion comme marqueur de civilisation, comme point d'identité pour un peuple, comme point d'identité pour une civilisation, manifestement, pour Malka, il faudra s'en débarrasser dans tous ses visages. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, ce ne sont pas tous ces visages qui poussent au crime. On assassine plus facilement aujourd'hui en disant « Allahu Akbar » qu'en disant « Je vous salue, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs ». On assassine assez rarement de cette manière. Gardons ça à l'esprit.
Autrement dit, qui dénonce la religion pour parler des attentats comme le fait Malka ne va pas jusqu'au bout de son diagnostic.
C'est un peu ça. C'est-à-dire, ou alors soit il ne va pas au bout de son diagnostic, ou il nous conduit dans une fausse piste, un mauvais diagnostic. Premièrement, il faut le rappeler, toutes les religions ne sont pas interchangeables. Toutes les religions n'engendrent pas les mêmes conséquences sociales. Il suffit, on peut tenir à l'écart l'islam un instant, il suffit de lire Max Weber. Max Weber qui disait « L'éthique protestante d'une société ne donne pas les mêmes résultats que l'éthique catholique d'une société. » Donc à l'intérieur même du christianisme, les différentes branches du christianisme n'accouchent pas des mêmes résultats sociaux, des mêmes effets sociaux et culturels. Donc la religion en tant que telle, ça ne veut pas dire grand-chose, sinon que vous êtes dans le parti de ceux qui refusaient fondamentalement la possibilité même d'une transcendance, la possibilité même du ciel. Deuxième chose qu'on doit garder à l'esprit, chaque religion s'inscrit dans une ère culturelle et civilisationnelle. Et même le catholicisme qui se veut, ou le christianisme qui se veut une religion universelle, l'islam aussi, soit dit en passant, est un universalisme, ne l'oublions jamais. L'islam est un universalisme. Eh bien, chaque religion s'inscrit dans une ère culturelle ou civilisationnelle particulière. Et dès lors, dire la religion en général, c'est se placer au niveau de Sirius pour commenter la réalité de nos peuples, la réalité de nos sociétés. Donc ça, je pense que la notion de la religion ne veut pas dire grand-chose finalement. Ça nous détourne encore une fois d'un examen précis des choses. Ensuite, imaginons qu'on prenne au pari au sérieux le pari laïciste radical, l'éradication sociale du fait religieux n'en resterait qu'une spiritualité intérieure. Je pense qu'on peut constater une chose au terme du 20e siècle. Quand les grandes religions s'effondrent, ce n'est pas la croyance qui disparaît, ce sont les croyances loufoques et absurdes qui se multiplient. C'est ce que dit Chesterton. Quand les hommes cessent de croire en Dieu, ils ne se mettent pas soudainement plus à croire en rien du tout, ils se mettent à croire en n'importe quoi. Et on peut dire de notre époque, qui a perdu tous les rituels, hein, de la naissance à la mort, en passant par le mariage, ainsi de suite, tous les rituels qui structuraient l'existence, on a vu un effondrement de ces rituels-là, et aujourd'hui, il y a une forme de bricolage de références spirituelles un peu étranges sur le monde New Age. J'ai souvent dit à la blague, quand vous sacrifiez le Christ, vous vous retrouvez avec les cristaux. Et ça, je pense qu'on y est un peu aujourd'hui. Cela dit, sur le plan politique, ça me semble assez fondamental. En refusant de nommer l'islamisme et en refusant de nommer l'islam, je fais la distinction, mais encore une fois, c'est important, on refuse tout simplement de nommer l'ennemi en quelque sorte, l'islamisme ici, pas l'islam l'ennemi, mais l'islamisme, qui nous désigne, qui nous attaque, qui nous confronte, qui veut nous conquérir. Ce n'est pas la religion aujourd'hui en Occident qui oblige les hommes et les femmes à se séparer, qui oblige les femmes à porter le voile, qui pousse justement aux assassinats comme on les voit en France trop souvent, qui a entraîné la mort de Dominique Bernard. C'est l'islamisme. Et quand vous menez une bataille, si vous ne nommez pas véritablement l'ennemi, vous êtes condamné à la perdre. J'ajoute une chose. Quand on a la posture très franc-tireur, un peu comme celle-là, ça nous oblige, pour donner l'impression de donner des coups à tout le monde, que de temps en temps on critique l'islamisme, mais ensuite on va chercher les derniers catholiques traditionnalistes à persécuter pour montrer qu'on tape également sur les représentants de toutes les religions. Je m'excuse, la messe en latin, c'est pas exactement la même chose qu'un attentat terroriste ou simplement dans le fait d'islamiser un quartier.
Richard Malka affirme aussi, je le cite, « Si on renonce à la laïcité, on retournera aux guerres de religion ».
Oui et non, oui et non. Vous savez, les États-Unis, le 11 septembre, aux États-Unis, les Américains sont pas exactement un pays laïque à la française. Et pourtant, l'islamisme leur a déclaré la guerre. Vous noterez d'ailleurs que les Américains ont eu de la difficulté à le comprendre au début. Parce qu'au début, ils ont bien compris que c'est l'islamisme qui les attaquait. Mais ils se sont perdus eux-mêmes alors, dans une forme d'universalisme terriblement abstrait, en disant, en fait, c'est une guerre contre le mal, contre la terreur. Axis of evil, l'axe du mal. Donc les Américains eux-mêmes, après le 11 septembre, ont été incapables de nommer correctement l'ennemi qui venait de les frapper. Ça les a conduits en Irak et on sait la suite des événements. La Grande-Bretagne a été attaquée par l'islam politique, par l'islamisme. À ce que j'en sais, la Grande-Bretagne n'est pas le paradis de la laïcité. Alors, il faut bien voir que l'islamisme déclare la guerre à une civilisation. Et on a beau dire, et c'est pas la laïcité qui pacifie les rapports entre l'islam et l'ensemble du monde occidental. Il faut bien, en France, on a dit, la France trouve dans sa laïcité un marqueur identitaire distinctif, mais comme j'aime rappeler, de ce point de vue, rien n'est plus particulariste que l'universalisme français. Il faut garder ça à l'esprit. Deux dernières choses. Il ne faut pas oublier que si l'islam s'est implanté dans les sociétés occidentales, ce n'est pas par sa puissance persuasive remarquable ou par son audace spirituelle convaincante. C'est simplement par un effet d'immigration massive. Il ne faut seulement pas l'oublier. Ce n'est pas la religion qui progresse en elle-même. C'est une population porteuse de cette religion. Et tant qu'on aura l'immigration massive, en fait, vous ne pouvez pas avoir l'immigration massive sans avoir l'islam. C'est comme ça. Et vous ne pouvez pas avoir l'islam sans avoir l'islamisme. L'islam, c'est pas l'islamisme, mais l'un vient avec l'autre. Et de ce point de vue, quand vous avez, aujourd'hui, comme on le voit de plus en plus, on nous le rapporte, hein, dans des écoles, notamment des jeunes filles, des jeunes femmes, françaises de souche, entre guillemets, qui décident de se voiler elles-mêmes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement la dynamique de l'assimilation qui recommence en France. Mais ce problème, c'est que ce ne sont pas les étrangers qui s'assimilent à la France, ce sont les Français qui s'assimilent à une civilisation étrangère plus forte, plus conquérante, qui impose ses normes.
Mal nommer les choses, c'est rajouter Arthur de Vatrigan du malheur au monde. C'est comme ça qu'il faut voir, apprécier, interpréter les propos de Richard Malka.
Oui, je suis... Dire la religion, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que Mathieu l'a très bien dit, la religion, ce n'est pas un concept qui est uniforme. Il n'y a pas une religion, il y a des religions, il y a des croyances. Alors je sais qu'on aime bien essayer d'expliquer des choses sur quelque chose qu'on connaît, donc on méconnaît l'islam et donc on essaie d'appliquer le modèle de l'islam sur le modèle du christianisme. Alors il faut juste relire tout ce qu'a écrit Rémi Braque sur le sujet. L'islam n'est pas le christianisme, pour plusieurs raisons. Alors évidemment, c'est une religion, à partir du moment où on s'entendrait sur le thème de ce que veut dire religion, mais partons sur une croyance. Ok, c'est ça, mais c'est aussi un ensemble de normes qui règlent la vie humaine et qui, à l'origine de ces normes, c'est Dieu. Or, Dieu est le législateur de ces règles et donc aucun nouveau législateur peut être supérieur à Dieu, logiquement. Alors on pourrait dire oui, mais chez les catholiques, Dieu aussi, évidemment, est supérieur à tout législateur, même s'il s'appellerait Macron Jupiter. Très bien, sauf qu'il y a quelque chose qui rentre en ligne de compte, qui est peut-être... une des choses uniques dans la religion chrétienne, qui est la morale individuelle. L'islam réglemente la vie civile. Vous avez des règles économiques, vous avez des règles familiales, vous avez des règles de vêture, des règles de nourriture, des règles d'hygiène. Bref, vous avez des règles qui légifèrent la morale individuelle. Or, la morale individuelle, dans notre civilisation et dans le christianisme, elle est fondamentale parce qu'elle ne supporte pas de loi, sinon celle de la conscience. De votre conscience, de ma conscience, de la conscience de Mathieu. Donc on se rend bien compte que vouloir traiter le problème de l'islam comme une religion, ça ne marche pas, parce que l'islam, en fait, il faudrait traiter le problème de deux coexistences, de deux systèmes que beaucoup de choses opposent. L'une d'origine humaine, certes largement influencée par le christianisme, et l'autre d'origine divine. Mais évidemment, ce qu'on voit en fait chez Richard Malka et chez beaucoup d'autres, malgré tout le courage évidemment qu'ils ont, ça je le remets pas en question, c'est que ce sont des enfants des Lumières finalement, qui voient dans la religion, mais le disent eux-mêmes, un enfermement ou une infantilisation. Et notamment lorsqu'ils comparent de manière assez grotesque l'Inquisition avec le djihad. Alors certes, la légende noire de l'Inquisition française, et je parle pas de l'Inquisition espagnole et de Torquemada et ses folies, française est assez tenace. On la doit aux Lumières qui, pour mieux briller, ont voulu assombrir un peu le passé, ça on le sait, mais sauf que si on lit tous les historiens sérieux, ils vous expliquent qu'à l'époque c'était un progrès, et à tel point que c'est un progrès, c'est qu'elle nous a laissé en héritage la procédure inquisitoire qui est dans notre justice aujourd'hui. Bref. Et sur plusieurs siècles, d'ailleurs, si on regarde, les condamnés et les morts de l'Inquisition sont très très faibles par rapport, par exemple, aux morts de la Révolution française. Mmh. Et c'est là qu'est l'os, en fait, pour ces gens-là, pour Richard Malka, c'est qu'à l'entendre, les plus grands massacres seraient commis au nom de Dieu, donc au nom de la religion, parce que la religion pervertit la raison. Bon, très bien, on demande de relire Jules Benoît XVI et tous ses travaux sur l'articulation de la foi et de la raison, ou simplement le discours au Bernardin qu'il a fait quand il est venu en France. Et deux, si on s'arrête là-dessus, c'est quand même vite passé sur le communisme et sur le nazisme qui a fait des millions de morts, et pourtant Dieu était absent des débats. Donc, après, il se revendique beaucoup de Voltaire et du droit au blasphème comme la liberté. Il faut rappeler deux choses, c'est que, la dernière condamnation de quelqu'un chez nous pour blasphème, c'est le chevalier de la Barre, c'est en 1766, ça a été fait par un tribunal civil, et des gens de l'Église avaient essayé de sauver sa vie. Et deuxième chose, concernant Voltaire, on connaît tous sa phrase, je suis pas d'accord avec vous, patati patata, sauf qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'il a quand même embastillé deux fois la Baumelle parce qu'il avait osé critiquer son siècle de Louis XIV. Donc le blasphème, c'est outrager le sacré, très bien, sauf que si on se relit Rémi Brague, on se découvre que le christianisme n'est pas la religion du sacré, mais la religion de la sainteté, ce qui n'est pas complètement la même chose, et qu'aujourd'hui, le sacré se trouve pas dans les religions. Le sacré, on le trouve dans la République, on le retrouve dans les droits de l'homme, on le retrouve dans l'IVG, par exemple, qu'on veut constitutionnaliser, on le retrouve dans le progrès. Et là, bizarrement, on n'arrive pas trop à attaquer, et où si on imagine, vous avez vu la sortie de la ministre de la Santé, où le tombereau d'insulte qu'elle s'est prise parce qu'elle a visité l'Institut de la Fondation Lejeune. Bon, dernière chose, Richard Malka a brandi le totem de la laïcité, expliquant que ça a mis fin en guerre de religion. Guerre de religion en 1905, je ne crois pas, parce que la réalité, c'est que c'est une religion de substitution et que la Troisième République, dont la majorité des responsables étaient soit protestants, soit agnostiques, tendance maçon, était bien content de la mettre en place pour des raisons idéologiques. Bref, la laïcité peut être un outil juridique important, pourquoi pas, sauf que ça ne règle jamais le problème de fond, parce que la question, encore une fois, elle est civilisationnelle. On va recevoir Pierre Manant tout à l'heure, qui parle de l'expression de terrain vague. Qu'est-ce qu'on a à offrir aux gens? Un terrain vague, c'est-à-dire un terrain nu avec juste des règles qui disent vous avez le droit de faire ce que vous voulez au nom des libertés individuelles, ou un commun qui s'appellerait la France, qui naît de l'alliance des fonds baptismaux et du trône de Reims, c'est-à-dire un commun que chacun peut épouser à condition qu'il le souhaite.
Voilà pour le premier édito. Parlons à présent de la Cour des comptes qui cache la réalité. On apprenait il y a quelques jours que la Cour des comptes avait décidé de garder secret un rapport documentant le manque de moyens investis dans la lutte contre l'immigration illégale. Elle l'avait gardé secret car à l'origine, elle devait paraître pendant le débat sur la loi immigration. Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, assume par ailleurs la non-divulgation du rapport. Il ne voulait pas s'immiscer, disait-il, dans le processus politique. Que retenez-vous, cher Mathieu Bocoté, de cette séquence?
Que tout cela est étonnamment banal, et je m'explique. on est devant un régime, donc quand j'entends par régime, c'est au-delà des partis, les principaux partis reconnus comme légitimes dans la concurrence pour l'exercice du pouvoir. On est dans un régime fondamentalement immigrationniste. Donc la politique, et ça c'est vrai partout en Occident, faut pas se tromper, la politique d'immigration, c'est soit plus ou toujours plus, mais jamais moins, et certainement pas redéfinir les paramètres du régime pour ne plus être immigrationniste. On se retrouve ici avec des informations majeures, des informations qui auraient pu faire basculer le débat sur l'immigration, de la part d'une autorité dont la fonction est d'éclairer le débat public de la manière la plus bon, la plus éclairée, pour faire en sorte que tous puissent voter en ayant toutes les informations nécessaires pour bien voter en fonction de leur conception de l'intérêt général. Eh bien, l'administration décide de faire de la politique. Surprise? Pas de surprise. Faut pas se compter des histoires. L'administration qui participe au régime considérait que ces informations risquaient de faire en sorte que la démocratie aille dans la mauvaise direction. Et on le sait aujourd'hui pour l'idéologie dominante, si la démocratie va dans le sens d'une défense des identités nationales, d'une défense de la souveraineté plutôt que de ce qu'ils appellent l'état de droit, qui est dans les faits un état de droit dévoyé, eh bien c'est plus vraiment la démocratie. Pour eux, la démocratie, c'est le déploiement de la révélation diversitaire. Je note, soit dit en passant, que les grandes autorités qui se permettent de confisquer, de garder pour elles des informations qui pourraient amener les gens à mal voter, ça existe aussi aux États-Unis. Je donne un exemple. Autour de Twitter, rappelez-vous à la dernière présidentielle, le fait que Twitter a décidé de cacher les informations autour du fils de Joe Biden, Hunter Biden, en disant que ça risquait, si ça... Puis on comprend que Twitter était en lien en ces matières-là avec d'autres autorités à l'intérieur de l'État. On se disait que si cette information-là circule, le commun des mortels risque de mal voter, risque de ne pas voter pour la bonne personne, risque de voter pour Donald Trump. Donc, l'idée n'est pas d'être pour ou contre Trump ici, mais l'idée de voir que Twitter a décidé, et on l'a vu avec un journal, le New York Post, qui faisait circuler des informations, qui avait écrit des articles sur le fils de Joe Biden, de censurer la diffusion d'informations qui risquaient de faire dévier le bon électeur, qui, autrement dit, qui doit voter dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir à travers cela? Eh bien, de plus en plus, l'immigration massive se présente à nous, non pas comme une fatalité, mais comme un projet. Comme un projet, tout simplement, qui est porté par les institutions européennes, qui est porté par les institutions nationales, qui sont de plus en plus post-nationales. Et de ce point de vue, cette omission ou cette décision de Pierre Moscovici est moins étonnante que révélatrice.
À propos de la question migratoire, il faut aussi, selon vous, parler du cas de la Belgique. Pourquoi la Belgique?
C'est absolument passionnant. C'est un article paru il y a quelques jours sur 7 sur 7, si je ne me trompe pas, où on voyait l'évolution de la question migratoire en Belgique. Je note quelques chiffres. 37,3% des citoyens en Belgique sont issus de l'immigration. Ça, c'est plus du tiers du pays. On doit comprendre. Il doit y avoir un terme pour qualifier ça, mais il ne me vient pas à l'esprit. Transition démographique, je crois. À Bruxelles, 82,5% de la population. À Anvers, 62%. À Gand, 41%. Alors, vous avez une espèce de bascule historique absolument fascinante. La composition du pays se transforme. Ensuite, je note une chose, ceux qui commentent l'article, parce que normalement, on pourrait dire, devant ça, on est vraiment devant une submersion migratoire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut encore stopper les choses? Pas du tout. On dit, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est formidable ce qui arrive là parce que ça participe justement à la transformation de la Belgique en état d'une créativité culturelle remarquable. On nous dit, c'est l'état laboratoire. C'est l'état laboratoire et l'immigration massive va même sauver la Belgique. Comment ça? C'est un peu bizarre quand même cette idée. Alors, on donne quelques exemples. Ça va sauver la danse, parce qu'on nous dit Bruxelles, qui est un laboratoire de la créativité culturelle en matière de danse, s'il n'y avait pas toute cette immigration, on n'aurait pas ça en Belgique, donc vive l'immigration massive. C'est le même argument qu'on nous a présenté, rappelez-vous, pendant le débat sur l'immigration, c'est l'an passé maintenant, quand on disait c'est l'immigration massive qui sauve la blanquette de veau. Parce que si vous n'avez pas des immigrés pour travailler dans les cuisines des restaurants, eh bien, vous n'aurez pas accès à la blanquette de veau qui est portée par ces restaurants, rendue possible par ces immigrés. Ah, il fallait y penser. Et au Québec, un argument semblable, c'est l'immigration massive qui sauve le français, parce que la langue française, parce que sinon, s'il n'y avait pas d'immigration massive, le Québec se laisserait diluer par le continent. Donc, l'immigration massive est toujours présentée comme une espèce d'immigration salvatrice. Donc, on doit l'applaudir en toutes circonstances. Mais surtout, ce que nous dit dans cet article, c'est que le sociologue qui est commenté pour invité à commenter l'article, l'immigration va sauver la démocratie. Comment ça? Il dit, pensez-vous que tous ces gens qui arrivent en Belgique vont voter ensuite pour les nationalistes flamands? Parce que vous savez, il y a un cas en Belgique d'indépendantisme. C'est la Flandre qui pense à son indépendance. Il y a un parti indépendantiste marqué à l'extrême droite, comme on dit, le Vlaams Belang, qui est un parti à la fois conservateur sur le plan identitaire, conservateur sur le plan social, nationaliste au sens large du mot et indépendantiste. Et ce que dit le sociologue, c'est, mais tant mieux, parce que tous ces immigrés qui vont arriver ne risquent pas de voter pour ce parti infréquentable. Ils risquent, et parce que c'est un parti antidémocratique. Donc, parce qu'ils ne voteront pas pour lui, ils vont sauver la démocratie en servant de minorité de blocage électoral. Alors, vous comprenez? Et là, ça nous fait penser au fait, par exemple, je donne des exemples, les conseillers de Tony Blair qui disaient à l'époque qu'il faut une immigration massive. Pourquoi? Pour être capable de renforcer l'électorat travailliste qu'on est en train de perdre dans le pays. Ça fait penser au gouvernement canadien qui avait dit, après le référendum sur l'indépendance du Québec en 95, il faut augmenter l'immigration pour éviter que la prochaine fois, il y ait une possibilité que le camp du oui à l'indépendance l'emporte parce qu'on mise sur le vote issu de l'immigration pour bloquer le camp du oui. En 2012, François Hollande qui se fait élire, et qu'est-ce qu'on voit devant lui? Des drapeaux étrangers et non pas le drapeau français pour célébrer sa victoire, comme si finalement sa victoire était moins celle de la France que les drapeaux qu'on brandissait devant lui. Autrement dit, l'immigration comme instrument de neutralisation des majorités historiques occidentales, c'est revendiqué ici comme un progrès, à tout le moins, disons que ces gens sont honnêtes de leur point de vue.
Quel regard vous portez sur l'exemple, le belge, le laboratoire belge, Arthur de Vatrigan?
Moi, je reviendrai plutôt sur Moscovici parce que Mathieu s'étonne plus de rien. C'est très bien. Moi, je trouve ça effrayant. C'est-à-dire qu'il y avait un planning. La Cour des comptes devait publier ce rapport le 13 décembre.
Oui.
Soit deux jours avant la commission mixte paritaire.
Oui.
Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, explique « Je ne l'ai pas fait à titre... J'ai choisi à titre personnel de ne pas le faire pour pas que ce rapport soit utilisé et qu'il interfère avec la loi. » Alors, à quoi sert un rapport, déjà, si on ne doit pas l'utiliser? Ce qui est assez effrayant. Alors, on sait très bien que M. Moscovici ne souhaitait pas qu'il soit utilisé dans un sens, c'est-à-dire dans le sens d'un durcissement du projet, parce que ce rapport donnait des éléments factuels qui appuyait le durcissement du projet. Or, ça allait à l'encontre des idées de M. Moscovici. Donc, on appelle ça de la rétention d'informations pour des raisons idéologiques. Quand on a ce poste-là, je trouve ça effrayant. Moi qui croyais que la Cour des comptes était au service de la France, faut croire que non. Ou alors, c'est M. Moscovici qui s'approprie la Cour des comptes pour ses idées personnelles, ce qui est encore plus embêtant. Et c'est un scandale d'autant plus important qu'il l'assume complètement, c'est-à-dire qu'il piétine la démocratie, puisqu'il s'agissait du vote des deux chambres, hein, du Sénat et du Parlement. Et en plus d'un mépris gravissime pour les Français et ses représentants, qui sont beaucoup trop bêtes pour pouvoir bien utiliser ce rapport. Je trouve ça vraiment effrayant. Alors, qu'est-ce que dit ce rapport? Rien que nous ignorons, et surtout pas ce que les Français subissent. C'est-à-dire que la lutte contre l'immigration illégale est largement insuffisante, hein, la lutte menée par l'État. Les victimes de QTF et d'immigrés en situation irrégulière le savent, l'ont remarqué. Et l'autre point, c'est le coût de cette lutte qui coûte 1,8 milliard d'euros par an à l'État, donc à la France. On est content de payer des impôts, surtout pour voir ce résultat. Moi, pour vous rendre optimiste, j'ajouterai un petit chiffre en ce début d'année. Hein, c'est non pas le coût de la lutte, mais le coût annuel de l'immigration en France, c'est-à-dire les dépenses moins les recettes. C'est 54 milliards d'euros par an. Donc, il paraît que c'est une chance pour la France. C'est une chance qui coûte quand même très très cher.
La publicité, on revient dans un instant. Pierre Manant, le philosophe, sera votre invité, cher Mathieu Bock-Côté. À tout de suite. 19h30 sur CNews, la suite de Face à Mathieu Bock-Côté, mais d'abord le point sur l'information, c'est avec Augustin Donadieu.
À Paris, un homme de 30 ans est décédé à l'hôpital au lendemain de son interpellation par 6 policiers en Seine-Saint-Denis. La victime aurait reçu une douzaine de décharges électriques de taser. Le soir des faits, 18 fonctionnaires sont intervenus en plusieurs temps pour interpeller l'homme en état de surexcitation et d'agressivité selon le parquet de Bobigny. Une autopsie sera effectuée lundi pour déterminer les causes exactes du décès. Anthony Blinken poursuit sa tournée diplomatique au Proche-Orient. Il s'est longuement entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à Istanbul aujourd'hui. Prochaine étape pour le chef de la diplomatie américaine, la Jordanie, Israël, puis la Cisjordanie occupée pour tenter d'éviter un embrasement régional après l'élimination ciblée du numéro 2 du Hamas mardi dernier. Et Patrick Sébastien, victime d'un cambriolage à son domicile de Boulogne-Billancourt. L'animateur que nous avons joint n'était pas présent avec sa femme au moment des faits. Selon lui, les auteurs sont des professionnels et ils ont cassé la baie vitrée à l'aide d'un cendrier en passant par le jardin. Le montant du préjudice n'est pas connu pour le moment, mais il nous a indiqué qu'il s'agissait essentiellement des faits personnels de sa femme. En début de semaine, c'est le domicile de Nikos Aliagas dans le Val-de-Marne qui avait été la cible d'une tentative de cambriolage.
Merci pour le point sur l'information. Bonsoir Pierre Manant.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous êtes le premier invité de l'année 2024 pour Mathieu Bock-Côté. Cher Mathieu Bock-Côté, pourquoi avoir invité ce soir Pierre Manant?
Alors, l'année 2024 sera une année, à tout le moins la première moitié, consacrée vraiment à la question européenne. Et rares sont, je crois, les philosophes politiques en France à avoir pris au sérieux l'enjeu européen, l'objet européen, l'entité européenne. Et c'est par ailleurs le cas de Pierre Manant qui, lui, a consacré véritablement des pages essentielles à cette question. Pierre Manant, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, une question toute simple. On l'a vu il y a quelques jours, la mort de Jacques Delors annonçait en quelque sorte l'importance de la question européenne pour l'année à venir. Est-ce qu'on peut dire que pour la première fois, donc la charge Chabonnet qui était associée à son décès évidemment, est-ce qu'on peut dire que pour la première fois depuis un bon moment, la question européenne devient une question politique fondamentale à l'Europe à l'horizon des élections européennes de 2024?
Je ne pense pas que ce soit nouveau. C'est une question fondamentale depuis que l'Europe a commencé d'être construite. Simplement, la situation est différente sur un point que précisément la personnalité de Jacques Delors peut permettre de cerner. Jacques Delors, représentant brillant, influent d'un côté la démocratie chrétienne et aussi un syndicalisme chrétien, la CFDT, ce qui deviendra la CFDT. Donc il était membre d'une tradition importante de la politique européenne et je dirais de certains principes d'association qui à la fois influaient les nations et qui, à partir de cette influence dans les différentes nations, a contribué à donner crédit et perspective de morale et sociale à la construction européenne. Donc Jacques Delors renvoie à une situation en quelque sorte où il avait continuité en quelque sorte entre la vie sociale et morale des nations et la nouvelle communauté que l'on espérait fonder à partir de la vie sociale et morale de ces nations. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une telle situation. Les forces sociales intérieures des nations qui portaient le projet européen, donc la démocratie chrétienne et aussi la social-démocratie, ces forces sociales sont étiolées, pour le moins, sinon effacées. Et donc, maintenant, la chose européenne doit tenir sur elle seule, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de continuité entre la spontanéité sociale des nations européennes et la construction européenne, qui donc devient de plus en plus une construction abstraite, si j'ose dire, et détachée de la vie des nations européennes.
Alors, une des phrases qui a marqué l'histoire politique de Jacques Delors, c'est lorsqu'il dit au moment du référendum de Maastricht, ceux qui sont pour le camp du non devraient quitter la vie politique. Est-ce qu'on peut dire qu'avec lui, et c'est un héritage peut-être des 30 dernières années, l'Europe s'est moins présentée comme un projet politique qu'à la manière d'un horizon moral indépassable? Donc être pour l'Europe, c'est être pour le bien, et ne pas être favorable à la construction européenne telle qu'elle se présentait à nous, c'était s'avouer coupable d'une forme de moralité dégradée.
Bon, je ne pense pas que ce soit qu'il ait été le plus strident dans ce genre de formulation. La classe politique européenne s'est installée dans cette posture qui, évidemment, simplifie considérablement les choses en considérant que quiconque fait des réserves sur la manière dont les choses se passent doit être écarté de la vie convenable, en quelque sorte, de la société convenable. Bon, ceci est... Ce qui est important de voir, c'est que là, aujourd'hui, nous continuons de faire courir, en quelque sorte, un dispositif qui, en quelque sorte, a perdu tout élément d'orientation, tout élément pour se guider. L'on envisage aujourd'hui, nous sommes à 27, d'aller vers 30, 35, ce qui rendra évidemment encore plus impuissante une Europe qui est déjà impuissante. Donc, aujourd'hui, les classes politiques européennes continuent d'entretenir, si j'ose dire, une machine dont chacun voit qu'elle tourne sur elle-même et ne produit aucune force, ni aucune justice, ne produisant aucune force. Bon. Donc, la question qui se pose à nous est de savoir dans quel régime politique vivons-nous. Et qu'est-ce que l'Europe par rapport à notre régime politique, par rapport à nos nations? Donc, c'est à cette question que les politiques doivent répondre. Et je réponds à leur place, mais ils ne me demandent pas mon avis, mais vous me permettez de le donner. Qu'est-ce que l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle est en réalité la création de nations qui sont gouvernées par des régimes représentatifs, dont des nations... gouvernés par leur parlement, par leurs institutions représentatives, et qui ont délégué un certain nombre de compétences à des institutions communes européennes. Donc, il n'y a pas de souveraineté européenne. L'organisation européenne est une sorte d'organisation internationale qui assure la collaboration sur certaines compétences communes de nations qui, par ailleurs, dont la légitimité politique, par ailleurs, est fondée sur des républiques représentatives. Donc, voilà en quoi consiste la construction européenne. En réalité, au-dessus de cela, s'est construit une idéologie, une sentimentalité, une rhétorique, un sublime européen, mais qui n'est fondé sur rien, qui n'est fondée sur rien, car le signe que l'Europe, comme souveraine, n'existe pas, c'est que l'Europe ne prend aucune décision de souveraineté. L'Europe n'a été incapable de produire la moindre quantité de force militaire, diplomatique, pour obtenir des effets souhaités et désirés par l'ensemble européen. Donc, il faut se rendre compte que, en réalité, alors que nous continuons de vivre dans des États en principe représentatifs qui ont fait quelques délégations de souveraineté à des institutions communes, on nous persuade que nous vivons en quelque sorte dans un nouveau monde qui a laissé derrière lui les nations. En réalité, non. L'Europe telle qu'elle est n'existerait pas sans la vie politique des différentes nations. Elle n'existe que par les nations qui lui donnent vie. D'ailleurs, qu'est-ce que l'Europe ? L'Europe, c'est cette ère de civilisation très unique dans l'histoire, où une communauté de civilisation est fondée sur une pluralité de corps politiques en rivalité. Il n'y a que deux exemples. Il y a l'exemple des cités grecques et l'exemple de la civilisation européenne.
Mais est-ce que vous n'avez pas de vision, on pourrait dire, exagérément généreuse à l'endroit de l'Europe ? Je m'explique. Vous dites qu'il n'y a pas de souveraineté européenne. Or, dans les faits, quand les Italiens, par exemple, pensent à voter, avant les dernières élections, pensent à voter pour Giorgia Meloni, on pense qu'elle peut prendre le pouvoir, Madame von der Leyen dit... Si ça tourne mal, nous avons les moyens pour corriger la situation. On voit donc un régime de sanctions lorsqu'une nation vote mal. La Hongrie, la Pologne, l'Italie peut-être, qui sait demain la France. Donc lorsqu'un vote ne s'inscrit pas dans l'idéologie européiste, la Commission dispose de pouvoirs néanmoins pour punir les peuples qui votent mal.
Mais la Commission n'a aucun pouvoir en réalité. Je veux dire, l'Italie n'est pas punie par la Commission. L'Italie est punie par la République fédérale allemande, ou comme précédemment, la République fédérale et la France, n'est-ce pas ? Lorsque M. Monti a été conduit vers le poste de Premier ministre en Italie. Donc les nations constitutives de l'Europe usent de la rhétorique européenne, usent des prétextes européens pour faire valoir leurs souhaits, n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce que... La réalité de la vie européenne, l'Europe est construite sur quoi ? Sur la suzeraineté allemande, n'est-ce pas ? Sur l'hégémonie allemande. Elle s'est construite autour du mark, transformée en euros, et construite autour, disons, de l'influence prédominante allemande. Hégémonie acceptée, si j'ose dire, avec plus ou moins de bonne volonté, ou plus ou moins de satisfaction par l'ensemble des nations qui l'entourent. Donc, ne nous faisons pas une idée, ne prenons pas à la lettre l'idéologie européenne, l'idéologie européiste. En réalité, tout ce qui se passe, continue de se passer entre les nations. Et il importe que les membres des nations se rendent compte de cela et ne se laissent pas emporter par cette rhétorique ou cette représentation totalement, irréelle, n'est-ce pas ?
Arthur de Vatrigan.
Alors, si je comprends bien, c'est l'Allemagne, en fait, qui est le... Il y avait cette expression dans le foot, vous savez, le foot, c'est un jeu qui joue à 11 contre 11, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. On pourrait dire l'Europe, c'est un jeu qui joue à 27, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais la question, c'est est-ce que c'est un braquage ou un coup d'État des Allemands, ou est-ce une soumission des autres pays, et notamment des Français ? Et si c'est le cas, pourquoi se soumettre à l'Allemagne ? Parce qu'a priori, même économiquement, il n'y a pas trop intérêt, on n'est pas gagnant dans l'affaire.
Non, mais bon... D'abord, reconnaissons aux Allemands qu'ils sont les seuls à reconnaître explicitement que l'Europe n'est pas souveraine. N'est-ce pas ? C'est la Cour constitutionnelle allemande qui, de façon très développée, précise, claire, a expliqué après Lisbonne, en 2009, elle a expliqué que il n'y avait pas de souveraineté européenne parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Si, donc, les Allemands sont un peuple qui est représenté au Bundestag, et si jamais il s'agissait de passer à une souveraineté européenne, alors le peuple allemand devrait explicitement décider de se fondre dans un peuple européen. Tant que les choses n'en viennent pas là, eh bien, les pouvoirs de l'Europe sont des pouvoirs délégués par la souveraineté qui réside dans le corps politique allemand, qui réside dans le peuple allemand, qui réside, qui s'exprime dans le Bundestag. Donc, l'Allemagne se considère, n'est-ce pas, comme une république qui se gouverne elle-même en concédant ou en déléguant des compétences à l'Union européenne. Tel est l'état effectif de la situation. Alors, pour le reste, hégémonie, coup d'État, hégémonie me convient. L'Allemagne est le pays central qui, avec la chute du communisme, a, si j'ose dire, a retrouvé son espace naturel, son mini-empire spontané naturel qu'elle a toujours eu à l'est de l'Europe. Elle l'a retrouvé dans des conditions très avantageuses pour tout le monde, puisque c'était dans des conditions entièrement pacifiques. Donc il est assez naturel que ce concert des nations trouve son centre de gravité dans la principale puissance. Alors maintenant, est-ce que ça signifie qu'il faut être satisfait de cette situation pour un pays comme la France, surtout quand l'Allemagne prend des décisions qui sont tellement contraires à nos intérêts, et depuis bien longtemps. Ce qu'on peut reprocher, il n'y a rien à reprocher aux Allemands. Ils font, si j'ose dire, ils exercent leur influence j'imagine, nous le ferions si nous étions à leur place. Mais simplement, ce qui est déplacé, c'est pour nous de mimer d'abord cette co-direction de l'Europe qui, bon, je ne veux pas, si je vais quand même le dire, mais que ce couple franco-allemand, les Français le savent, tout le monde le sait, sauf apparemment ceux qui nous gouvernent, c'est une légende française. Donc, considérons l'Allemagne comme un pays ami, mais qui a pris l'habitude, surtout dans les dernières années, de prendre des décisions extrêmement contraires à nos intérêts et parfois marquées par une hostilité, si j'ose dire une sorte de malveillance qui commence à devenir en effet lourde à supporter. Voilà. Mais encore une fois, nous vivons dans nos nations et c'est ce qui se passe dans nos nations qui est déterminant pour la vie européenne. Et que si ce sont les normes européennes qui nous étouffent, qui faussent l'expression démocratique, que sais-je, ce sont des choses que nous avons acceptées depuis des années. Donc, encore une fois, il n'est pas vrai que les choses se passent ailleurs. Les choses se passent chez nous.
Et pourtant, vous me permettrez de vous donner quelques éléments. 2020, au moment de la présidentielle de 2022, il y a, chez les Républicains, par exemple, on a Michel Barnier, qui n'est pas, à ce que j'en sais, un souverainiste, un foudre de guerre souverainiste chez les Républicains, qui dit, pour l'OTAN, il faut que le droit national prime sur le droit européen. Plusieurs, à la France insoumise, au Rassemblement national, chez Reconquête, une partie des LR, plaident pour ce primat du droit national sur le droit européen. Ce à quoi une bonne partie de la classe politique dit, non, il ne faut pas, le droit européen doit primer, c'est la condition même du projet européen. Donc, comprenez-vous ce désir de faire primer le droit européen sur le droit national qui est présent néanmoins dans la classe politique française et évidemment dans la nomenclature bruxelloise?
Comme vous savez, cette idée de la suprématie du droit européen remonte à 1964, le fameux arrêt Costa, où pour la première fois, la Cour de justice européenne a décidé que le droit européen avait primauté sur les droits nationaux, c'est-à-dire que l'Europe constituait une communauté de droit. Alors là, c'est si j'ose dire là le coup d'État originel, n'est-ce pas ? Et le coup d'État originel qui est devenu permanent de l'Union européenne, parce que il faut vraiment ne pas savoir ce qu'est la vie politique, ce qu'est la vie sociale, ce qu'est l'existence d'une société politique, de penser qu'on peut instituer un ordre juridique sans base politique. Donc, l'Europe est fondée sur ce non-sens. Non-sens. C'est impossible. Et vérification, c'est pas moi qui dis c'est impossible. Vérification, depuis le début, ça n'a toujours pas été transformé en institution politique. Et ça ne peut pas être transformé en institution politique. Si on voulait que l'Europe devienne une institution politique, si on voulait que l'Europe devienne une puissance, eh bien, c'était très simple. Peut-être difficile en pratique, mais très simple à concevoir. Il s'agissait de le décider. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait comme les Américains, enfin, les États américains, les colonies américaines. On fondait un exécutif commun, un législatif commun. Est-ce que jamais a-t-il été question de fonder un législatif commun ou un exécutif commun dans un peuple pour représentant et gouvernant un peuple commun, un peuple européen? Non, il n'en a jamais été question. Donc, l'Europe n'a pas été fondée en direction d'un projet en réalité. L'Europe a été fondée en fuyant ce qu'était l'Europe ancienne. L'Europe a été fondée par rapport à son histoire. La construction européenne, c'est une réflexion sur le passé de l'Europe.
Diriez-vous une répudiation ?
En tout cas, si vous voulez, pour le dire d'un mot, des mots lourds de sens, n'est-ce pas ? Si on peut dire, il m'arrive de dire cela, Verdun et la Shoah ont en quelque sorte disqualifié, je dirais, l'indépendance des nations européennes. Rétrospectivement, la conscience qu'on en a prise, c'est qu'il ne faut pas laisser aux nations une indépendance dans leur gouvernement qui puisse conduire à des catastrophes comme les guerres hyperboliques du XXe siècle ou comme la Shoah.
Donc, est-ce que les peuples ont accepté cette confiscation, cette délégitimation de l'indépendance ?
Les peuples, les gouvernants, il ne faut pas non plus les séparer entièrement. Les gouvernants et les peuples se communiquent quand même. D'une certaine façon, cette idée est devenue... C'est emparé quand même de nos sociétés. L'Europe s'est construite sur la peur de nous-mêmes, d'une certaine façon. Sur la peur de ce que nous pouvions faire. Donc, nous nous sommes réformés de telle sorte que, n'est-ce pas, nos nations ne puissent plus jamais faire ça. Donc, nous nous sommes construits sur des empêchements. Nous nous sommes construits pour nous empêcher. Et c'est ça qui est la contradiction majeure de ce que j'appellerais le Parti européen, qui nous dit « construction de l'Europe ». Mais l'Europe s'est construite pour nous empêcher de faire. Et donc, nous ne faisons pas. Et donc, nous ne ferons pas l'Europe puissance, puisque nous sommes organisés pour ne pas produire de puissance. Vous imaginez, si la France indépendante était dangereuse, ou l'Allemagne indépendante dangereuse telle qu'elle est, bon, alors plus encore l'Europe. Parce que l'Europe représentant des centaines de millions de personnes, si elle devenait indépendante, elle deviendrait un acteur majeur, et donc un acteur dangereux, comme la Chine, la Russie, les États-Unis.
Le temps d'une dernière question brève d'Arthur de Matrigan.
Ça s'est construit contre... mais est-ce que dans ces cas-là, c'est pas arrivé en interne, à l'intérieur de la France? Par exemple, dès qu'on veut faire quelque chose, on dit non, état de droit. Quand on veut pas faire du référendum, on dit non, pas du référendum. Est-ce qu'on a la peur du peuple? On a la peur du vote populaire?
Oui, bien sûr. Non, ça certainement. Certainement. Nous ne savons plus... Nous avons perdu, je crois, le désir de s'associer. Nous avons la peur de l'association. Alors, toutes les associations, je veux dire, les syndicats, les partis n'ont plus de militants, les syndicats n'en ont plus guère, les églises, plus guère non plus, les nations sont discréditées, délégitimées. On voit bien que tout ce qui est susceptible de réunir ou d'associer les hommes nous inspire une méfiance insurmontable. Et la seule chose dans laquelle, disons, nos sociétés mettent leur cœur, c'est dans les droits individuels, comme vous savez bien. Donc, c'est-à-dire des droits qui sont en principe des choses excellentes, mais lorsqu'ils sont seuls à animer la vie collective, sont séparateurs. C'est-à-dire ils interdisent, tels qu'ils sont interprétés aujourd'hui, toute construction institutionnelle. Parce que toute association, nécessairement, tend à, sacrifier... On est obligé de sacrifier sa totale liberté individuelle. Si on s'engage dans un syndicat, dans un parti, dans une nation, dans un couple, dans un mariage, on limite sa liberté.
Eh bien, un grand merci, Pierre Manant.
Merci à vous.
Merci à Mathieu Bocoté, merci à Arthur de Vatrigan. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Dans un instant, c'est l'heure des pros. Il sera notamment question de la question migratoire. Et on reviendra longuement sur les déclarations de Pierre Moscovici, qui assume ne pas avoir publié ce rapport sur l'immigration illégale à la date qui était prévue, c'est-à-dire le
13 novembre.
13 décembre. À tout de suite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.